Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et vous le savez, c'est une tradition jusqu'à 19h. C'est le débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Lionel Gougelot, Catherine Ney, Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être autour de la table d'Europe 1 comme tous les soirs. On va se poser une première question ce soir, si vous le voulez bien. Évidemment, à propos du coronavirus, mais sous l'angle des élections municipales. Charles Villeneuve, est-ce que ces élections municipales ne sont pas les autres victimes de cette crise sanitaire du coronavirus ? Elles vont avoir lieu tant bien que mal. Le gouvernement a-t-il eu raison de les maintenir, ces élections ?
Moi, je crois, oui. Je crois d'abord parce que la décision, de toute façon, n'est plus possible maintenant. Vous savez qu'il faut une loi, il faut que cette loi soit soumise au Conseil constitutionnel, etc. Évidemment, ça demande un filtre près d'un mois. Donc, les élections municipales auront lieu. Alors, victimes, oui, relativement, oui, puisque un dernier sondage nous dit que 28% des gens hésitent d'aller voter.
À cause du virus, à cause de la peur du virus.
Évidemment, à cause de la transmission du
virus. Des risques de contagion.
Voilà, du risque de contagion. Donc, c'est sûr qu'elles seront atténuées. Est-ce que le résultat sera discuté ? Je ne crois pas, ça fait partie des vicissitudes, si vous voulez, de la vie en commun.
On va voir s'il y a effectivement des répercussions sur la participation aussi. Ça peut, d'une certaine façon, fausser le résultat. Catherine Ney, ces élections municipales, coûte que coûte, là aussi, il fallait les tenir.
Oui, d'ailleurs, à un moment où le pic, on était très loin du pic de l'épidémie, moi, je pense qu'on pouvait encore... Enfin, j'espère, à la vitesse à laquelle avance l'épidémie, je pense que c'était peut-être difficile de reporter, ouais. Parce que autrement, il aurait fallu peut-être reporter de 6 mois à 1 an, attendre. Donc, moi, je pense que c'était peut-être too much de faire ça. Mais c'est vrai que ça peut changer quand Charles dit que 28% des Français s'interrogent. Ce qui est le plus curieux, c'est que ça ne sont moins les personnes âgées qui sont, d'après ce sondage, qui hésitent à aller voter, que des jeunes qui, en général, ne votent pas, votent moins que les autres. Ils sont 40% à dire que peut-être ils n'iraient pas voter. Or, si 40% des jeunes, déjà peu enclins à voter, ne se précipitent pas, enfin ne vont pas aux urnes, eh bien, c'est vrai que ça peut impacter plus les écologistes, la gauche, qui sait que la droite. Enfin, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça va changer le profil des résultats ? Voilà, c'est toute la question.
Un sentiment là-dessus, Alexandre Malafaï,
Ça va forcément avoir une conséquence sur le nombre de votants, donc forcément, ça aura un impact sur le résultat, sachant que si le gouvernement avait pris la décision d'annuler en l'état actuel, du péril, tout le monde aurait hurlé à la manipulation, au scandale, parce qu'effectivement, la séquence n'est pas très favorable pour La République En Marche en France. Donc voilà, il fallait maintenir. En même temps, ça nous dira quelque chose quand même de la résilience de la nation. C'est un bon test, si je puis dire. On a un problème, mais il est relatif. Il faut aussi remettre les choses à leur place.
Surtout
comme on dit.
Pour un scrutin favori des Français. Quoi.
Oui, exactement. Ah oui, sachant que les risques de contamination dans leur voté sont ce qu'ils sont. Et puis, je rappelle, tous les jours, malheureusement, en France, on perd 1500 personnes. C'est ça la réalité de la mortalité en France. Et là, on est sur, à chaque fois, chaque jour, 5 personnes, 10 personnes qui partent. Mais donc voilà, il y a une réalité qui est un peu différente de celle qu'on nous dépeint en permanence.
Voilà, le décor est planté. On en reparle dans un instant. Une première pause publicitaire et on revient dans un instant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Lionel Gougelot. Et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix avec autour de vous ce soir Lionel, Catherine Ney, Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, et Charles Villeneuve et toutes vos réactions au 39-21.
Eh bien justement, Patrice nous a appelé au 39-21. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris, je crois que je peux le dire Patrice, vous avez 71 ans et vous allez aller voter coûte que coûte dimanche prochain.
Absolument. Déjà, ça me coûtera assez peu parce que j'habite en face du collège,
ah oui,
qui est mon bureau de vote. Ensuite, ma foi, il y aura du monde comme d'habitude. Et puis, au moins, peut-être bien que j'apporterai mon soutien au financement des caisses de retraite si je chope le coronavirus.
Mais est-ce que vous pensez que tout est fait pour que justement ce scrutin se déroule dans les bonnes conditions ?
Je pense, oui. Je pense d'abord parce qu'il n'y a pas que des vieux comme moi. Il y a aussi des jeunes qui résistent extrêmement bien. Et puis, il semblerait que toutes les précautions soient prises. Et puis, un collège tel que je connais les gens depuis un moment, qui est capable de résister à tous les enfants qui vont dedans et à de sacrés numéros, est capable de résister à tout.
Bon, donc vous ne cédez pas à la panique, Patrice, et c'est tant mieux. Merci pour votre appel. Donc, tout est bien organisé, Charles, pour ces élections municipales. En fait, on peut dire que les municipalités mettent le paquet, hein, c'est vrai.
Oui, absolument, mais je pense que dans plusieurs municipalités, maintenant, un peu moins peut-être dans les grandes villes, mais vous savez, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les équipes municipales, notamment celles qui sont en place, pour aller chercher notamment les votants. Et notamment, je me répète, les personnes âgées. Les personnes âgées qui, de toute façon, croient encore au crédit de la parole politique, ce qui est moins vrai chez les jeunes. Et je pense que l'une des raisons fondamentales de la statistique que vous disiez tout à l'heure, celle qui indiquait que les jeunes allaient moins voter que les personnes âgées, tient aussi à ça.
Alors, non, mais ce qui est intéressant, Catherine, c'est que pour la première fois, là, à 5 jours de l'élection, le ministre de l'Intérieur a écrit, a indiqué dans un télégramme à tous les préfets que toutes les personnes malades ou confinées pouvaient faire appel à un officier ou un agent de police judiciaire pour venir recueillir à domicile une procuration. Mmh. Ça veut dire qu'ils vont être drôlement mobilisés.
Des procurations dans les maisons de retraite également.
Oui, et dans les établissements, dans les EHPAD, même une personne pourra se rendre à domicile avec une urne, et enfin voilà, pour leur dire, et des bulletins de vote pour les faire voter.
Ouais. Si la situation s'aggrave entre les deux tours, Alexandre Malafaï.
On verra. Elle peut, tout est possible à ce stade. Moi, je trouve c'est qu'il faut que les gens aillent voter d'une part, parce que ce n'est pas plus dangereux d'aller au supermarché ou chez le boulanger ou à la pharmacie que d'aller voter dimanche.
C'est vrai.
Voilà. Donc, non, mais il faut juste ramener, là encore, les choses à leur stricte réalité. Et donc, il faut aller voter. Ensuite, je voudrais dire à vos auditeurs, c'est que quand même, l'élu qui fait son métier en France avec encore une crédibilité et un rôle majeur et que tout le monde peut percevoir en situation de crise, justement, c'est le maire. Ce sont les équipes municipales. Vous avez 500 000 élus locaux qui sont au présent au quotidien des Français, 35 000 maires qui se battent, qui sont là, qui assurent ce lien essentiel finalement de la continuité de l'État et de la nation dans ce genre de situation. Dimanche, les soutenir, aller voter pour leurs adversaires. Enfin, on n'est pas là pour réélire les sortants, mais en tout cas, on est là pour aller manifester son engagement. Ça fait sens, voilà. Après, l'entre-deux-tours, on va voir la crise. Elle est en train de monter en puissance. On va voir, les chiffres ne donnent pas une tendance claire. On voit bien que ça évolue jour en jour, mais on n'est pas dans une dynamique exponentielle. Donc l'entre-deux-tours peut être très perturbé si on passe à 10 000, 20 000, 30 000 cas. Si on reste sur cet étiage-là, globalement, on va passer la vague.
Alors, et puis le vote municipal n'est pas le vote législatif ou le vote présidentiel. Le vote municipal tient à la personnalité du maire, à son bilan, à son équipe ou personnalité qui l'entoure. C'est un vote spécifique. Donc les enseignements politiques à tirer, si vous voulez, des municipales est légèrement différent et plus subtil que les autres élections.
Alors, moi, je crois même que dans cette période d'inquiétude, les Français iront voter pour des valeurs sûres. Et la valeur sûre, dans leur ville, c'est souvent le maire sortant, parce qu'ils le connaissent, ils savent ce qu'il a fait dans la ville, ils les protègent. Et moi, au contraire, que ça va beaucoup favoriser les maires sortants.
Alors, cette crise du coronavirus, elle a un peu éclipsé, je dirais, des enjeux politiques primordiaux, d'un point de vue donc, politique, pour les futurs résultats, pour les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille. Finalement, est-ce qu'on n'est pas passé un petit peu à côté de ces grands enjeux politiques, avec des figure importante, Charles?
Ces trois grandes villes, elles ont en commun qu'on est dans une fin de cycle quasiment sur les trois villes. Peut-être un peu moins avec Hidalgo, mais enfin, ça fait 20 ans que la gauche s'est emparée de la mairie de Paris. Ça fait 20 ans, si vous voulez, que pendant 20 ans, Colomb a été maire et lui aussi est en difficulté, beaucoup plus. Peut-être qu'on ne le suit pas attentivement et qu'on n'en parle pas assez, suffisamment, en tout cas dans le Rhône, en Rhône-Alpes, on en parle beaucoup. Il est en difficulté. Et puis à Marseille, évidemment, Godin a jeté l'éponge puisque lui s'en va au bout de 25 ans. Et c'est très ouvert à Marseille. Hier, il y a eu un sondage, vous l'avez peut-être vu, qui a été diffusé dans le Provençal, la Provence, pardon. Ça va être très disputé. Ça se décidera au deuxième tour, même s'il semble que la candidate des Républicains, Martine Vassal, tienne le bon bout.
Catherine, les Français sont attentifs aux résultats de ces grandes villes où ça risque de passer, pardonnez-moi l'expression, mais un peu par perte des profits.
De loin, non, mais ce qui va être intéressant, c'est savoir si le passage au gouvernement de Gérard Collomb va être sanctionné par les électeurs. Mais il n'est pas candidat à sa succession à la mairie. Il est candidat à la métropole. Et ce qui va aussi beaucoup impacter cette élection, c'est que dans 59 communes, dont Lyon évidemment, les électeurs doivent voter deux fois, à la fois pour leur mairie et puis aussi pour la présidence de la métropole. Donc ça peut un peu compliquer le jeu.
Alexandre Manafaï.
Il est évident que, d'une manière globale, on va regarder parce que c'est emblématique, parce qu'il y a des personnalités, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on aime bien aussi le théâtre qui va autour de tout ça et que ça fait partie de la tradition française. Après, dans la vraie vie, c'est quand même trois villes. Ça représente certes 3 à 4 millions d'habitants, sans compter les métropoles. Il y a 35 000 communes en France. Et pour le coup, c'est vraiment un scrutin où on est quand même concerné en direct. Et je dirais que c'est vrai qu'on parle beaucoup, même si en ce moment on en parle un petit peu moins, des grandes villes, des grandes métropoles. On a fait de gros focus sur Paris. D'ailleurs, c'est la seule ville qui a eu droit à son grand débat, si je puis dire. Et il y aura un grand débat d'entre deux tours avec les deux finalistes, ou les trois finalistes en fonction de la configuration. Mais en fait, on parle très peu des communes de taille intermédiaire, on parle très peu des maires ruraux, des territoires. Or, c'est là aussi qu'une grande partie de l'avenir se joue, parce que c'est là que se construisent aujourd'hui les fameuses fractures.
Et c'est là que les équilibres politiques se font dans les territoires. On marque une pause, si vous le voulez bien, parce qu'il faut qu'on parle, de l'Italie, les grandes voies, ce pays sous cloche, avec cette question, est-ce que c'est ce qui nous attend en France dans les prochaines semaines ? On marque une pause, on revient tout de suite.
Et votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Lionel Gougelot sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix et autour de vous ce soir, Lionel Gougelot, vous recevez Catherine Ney, Alexandre Malafaï, fondateur du think tank Sinopia et Charles Villeneuve.
L'Italie, c'est quand même l'image du jour, les grandes voix. L'Italie en quarantaine, l'Italie sous cloche, 60 millions d'habitants confinés dans leur pays. Et la première question qu'on peut se poser ce soir, ce qui se passe en Italie, est-ce que c'est ce qui nous attend en France dans les prochaines semaines, surtout quand on écoute Emmanuel Macron ce midi à l'issue de sa visite au SAMU de l'hôpital Necker.
Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés et à chaque moment de la phase montante et de cette épidémie, nous saurons adapter la réponse pour apporter justement les réponses que nos concitoyens sont en droit d'attendre.
Emmanuel Macron avait annoncé une épidémie inexorable en France la semaine dernière. Vous vous souvenez de ce terme ? Aujourd'hui, il annonce que cette épidémie ne fait que commencer. Le plus dur est à venir, Catherine ?
Oui, le plus dur est à venir, mais à quel niveau ? Si vous voulez, avec quelle montée des victimes et des morts ? Hier soir, sur BFM, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait des croquis pour expliquer qu'il
explique deux courbes
qui montraient une courbe qui allait monter, mais doucement, ne pas monter aussi haut que celle italienne pour redescendre doucement. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement pense que, avec les mesures barrières, qui sont très simples, comme de se moucher dans du papier, ne pas serrer les mains, pas de contact et tout ça. Déjà, on prévient beaucoup la maladie dans la singularité. Et c'est une contagion formidable. D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir que l'épidémie qui a pris plus tôt en Italie, a annoncé ces mesures barrières de prendre que récemment, après la France. Bon, mais le problème, est-ce qu'on peut comparer l'Italie et la France ?
C'est toute la question.
L'Italie a un système, d'hôpital avec beaucoup d'hôpitaux de pointe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont engorgés, ils ne peuvent pas répondre à la demande, ils sont obligés de faire des choix entre les malades. Donc le problème, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là aujourd'hui en France.
Charles Villeneuve, Emmanuel Macron prépare tout doucement les Français au passage au stade 3, la fameuse phase 3.
Oui, d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est-à-dire dans la manière dont, si vous voulez, les autorités françaises s'y prennent. Mais en même temps, je trouve que quand on l'écoute attentivement, en permanence, parce qu'il est intervenu dans pas mal d'endroits, au moins 4 fois.
Déplacements uniquement consacrés à la crise sanitaire.
Il essaie de faire en sorte qu'on essaie de vivre le plus normalement possible, en permanence. Il a ciblé, si vous voulez, et réagit de manière proportionné, ciblé, gradué. Et c'est là où est le paradoxe que vous venez de souligner, c'est qu'il termine toujours, mais attention, nous ne sommes qu'au début. Alors, si nous ne sommes qu'au début, là, Catherine vient de parler de l'Italie. L'Italie, il faut savoir qu'elle a reconnu qu'elle a été prise de vitesse, qu'elle n'a pas trouvé le patient zéro, plusieurs patients zéro.
Ce qui n'est objectivement pas le cas en France.
Qu'elle n'a pas pu remonter la chaîne de transmission et qu'à partir de là, si vous voulez, l'épidémie a commencé à galoper et le virus a dévalé la pente à une vitesse incroyable. Bon, c'est dans ce schéma qu'ils sont. Nous ne sommes pas encore dans ce schéma. Mais puisqu'elle est inexorable, puisque cette grande tempête annoncée pour l'instant, eh bien alors, on connaît de toute façon les mesures drastiques qu'il est en train de préparer vraisemblablement, c'est-à-dire le confinement total. comme d'ailleurs vous avez vu qu'il y a, en tout cas c'est annoncé, une décrue en Chine et que Singapour s'en est sorti pas mal du tout. On sait, toutes les études internationales vous disent que les enfants qui sont des réservoirs de virus, dès lors qu'on leur demande de rester chez eux, eh bien le virus finalement s'atténue et ne se propage pas. Donc on est à la veille, si je comprends bien, si c'est la grande tempête qui arrive en France, on est à la veille de ces mesures drastiques.
Alexandre Malafaille, peut-être que ça va vous paraître anecdotique, mais comment vous réagissez quand vous entendez le président de la République prendre le micro et déclarer, et comment dirais-je, donner en direct à la télévision des conseils pour se laver les mains, pour ne pas s'embrasser? C'est quand même assez.
Ça, objectivement, à ce stade-là, parce que c'est les bons conseils, c'est les bonnes consignes. C'est
il est
très
dans son
bien.
Rôle
oui. Oui, on est dans un moment donné où il faut essayer de sensibiliser au maximum les gens sur les mesures de précaution. Je voudrais prendre un exemple qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'épidémie, tout d'un coup, devienne majeure et en plus fasse beaucoup de dégâts. Regardez Taïwan. On connaît un peu Taïwan de loin parce que c'est à côté de la Chine. Il n'empêche que ça fait partie quasiment. Enfin, c'est le monde chinois. Taïwan est à 120 km des frontières de la Chine. C'est 23 millions de personnes. Il y a des échanges énormes avec la Chine. 45 cas aujourd'hui, d'accord, et un décès. Voilà. Sauf que Taïwan a tiré toutes les leçons du SRAS en 2003 et à partir de là a mis en place de mesures en matière de précaution, d'anticipation, de centre de commandement de la santé. Et c'est vrai que Taïwan est un pays qui est très propre. Le résultat, c'est voilà, qu'ils n'ont pas subi cette épidémie. Et on va peut-être arriver, grâce aux mesures qu'on a prises en France jusqu'à présent, on va peut-être arriver en fait, à passer à travers cette épidémie.
À la freiner.
Après, par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un point qui est très important. Moi, j'ai entendu les mots du président à la fois pour l'hygiène et en même temps ces mots un peu anxiogènes. Et il faut qu'on fasse attention parce que le vrai péril aujourd'hui, il est sur l'effet domino d'une crise, on va dire, économique majeure qui pourrait, pour le coup, plonger le monde dans un chaos sans précédent.
Alors, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes avec Patrick Martin.
Voilà, mais là, il y a un sujet. Oui. Je trouve qu'on est un peu en train de jouer avec le feu parce qu'on a vu la bourse hier. Aujourd'hui, ça a remonté. Mais voilà, les risques d'une catastrophe sérieuse sont là.
Non, mais en ce qui concerne le président de la République, moi, je trouve qu'il a raison, si vous voulez, de nous donner ces recommandations, peut-être aussi simples, qui paraissent simples. Il a raison parce que c'est, en quelque sorte, il pousse les gens à un savoir-vivre ensemble. C'est une leçon de citoyenneté.
Oui, on peut.
Ce plan-là, je trouve qu'il est dans son rôle et qu'il le fait pas mal.
Oui, moi, ce que je trouvais assez drôle, c'est qu'il aille dans une maison de retraite, déjeune avec les pensionnaires, pour lancer le message « n'y allez pas ». C'est-à-dire que ne suivez pas mon exemple et n'allez plus voir vos anciens parce que vous pouvez les contaminer. J'ai trouvé ça assez bizarre.
Un petit mot quand même. Franck Riester, le ministre de la Culture, est infecté. Nicole Belloubet est confiné. Le directeur de cabinet du président est en télétravail. Il a des mesures de protection renforcées à l'Élysée et à Matignon. À un moment, peut-être que la machine de l'État va être bloquée, non, Charles? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça?
Non,
vous
moi
faites
je
la
crois
moule.
Pas. Vous savez, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a deux hommes qui dirigent la France. C'est le président de la République et le directeur de cabinet du Premier ministre. Et évidemment, le Premier ministre aussi. Donc, à partir de là, les autres, bon, ils font leur boulot. Quoi. C'est des hauts fonctionnaires.
Ce qui m'inquiète le plus, alors bien sûr, c'est la progrès maladie. Bon, mais quand vous voyez qu'après les gilets jaunes, après les grèves, des secteurs entiers d'économie sont à nouveau impactés. L'hôtellerie, les traiteurs, la restauration, le tourisme,
parler dans la deuxième partie
le monde du spectacle. Non, mais là, c'est là où il va y avoir des morts, des entreprises qui vont mourir, peut-être même plus que de gens du coronavirus.
Que le sommet de l'État soit quelque peu affecté, ça n'a aucun moyen terme, ça ne change rien. L'État a une vraie continuité et le système est fait pour fonctionner justement dans une situation de crise et de stress.
On conclura sur ces paroles. Merci infiniment, les grandes voix. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 et merci pour votre accueil aussi. Tiens, au passage. Anissa. Europe 1.